Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero. Riesce a guadagnare il pallone Milito. Principe Milito. Bocio è libero per il traversone pericoloso. Rare. Orsi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Yohann Crochet, bonjour tout le monde.
Alors Guillaume, on le disait juste avant d'enregistrer, on va saluer nos auditeurs. J'en ai croisé beaucoup au Trianon vendredi dernier, puisqu'il y avait une soirée, un spectacle de l'afterfoot d'RMC. Et beaucoup d'auditeurs m'ont aussi parlé de Calcio PP en me disant qu'ils aimaient beaucoup ce qu'on faisait. On nous demandait « Alors, c'est quand le prochain ?» Et bien, le prochain, c'est maintenant.
Ils étaient sympas.
Ils étaient très, très sympas, figure-toi. Ah. Donc, c'était cool et on en profite pour les saluer parce que ça fait plaisir de les rencontrer. Et donc, le nouvel épisode Calcio PP, c'est maintenant. Et on s'est dit qu'on allait parler de deux clubs en difficulté. Point commun, ils sont à égalité de points en championnat. C'est la Lazio et le Napoli. Deux huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions, d'ailleurs, Guillaume. La Lazio qui avait été éliminée par le Bayern après avoir remporté assez brillamment le match aller. Et puis le Napoli qui avait été nettement moins brillant face au Barça, mais qui après le match nul à l'aller à Naples avait finalement clairement sombré à Barcelone, hein, disons-le clairement. Deux équipes, je le disais, à égalité de points au classement, à 6 points du cinquième, qui est la Roma, potentiellement 7 en prenant en compte le résultat au moment de l'interruption du match à Udine, qui pourrait devenir 9, ou pourrait devenir 6 aussi, et si la Roma finit par perdre ce match et la vingtaine de minutes qu'il manque. Mais on est sur deux clubs qui ont déçu en championnat, clairement. Je te propose de commencer peut-être par celui qui nous a le plus déçu, le Napoli.
Oui.
Qui est 8e donc de Serie A, 49 points. Il faut quand même se rendre compte que c'est que 1,53 points par match de moyenne. Pas glorieux pour le champion en titre. 10e défense, c'est là où ça pêche énormément. Et à domicile, Guillaume, match nul contre Frosinone, Torino, Genoa, Monza et des défaites à domicile toujours contre Atalanta, Lazio, Fiorentina. Donc des concurrents directs hein, pour accrocher les places Ligue des Champions. Et aussi Empoli, donc énormément de points perdus en route au San Paolo, enfin au Diego Armando Maradona désormais. Trois entraîneurs cette saison, Guillaume. Garcia, Mazzarri, Calzona. Qui est presque le plus problématique, c'est que celui qui a le meilleur bilan encore aujourd'hui, c'est Rudy Garcia, donc le premier. Et on est sur une saison où... tu sais, on avait eu ce débat, je crois, en début de saison, où on se disait quel doit être l'objectif du Napoli cette saison. Il y avait un peu les optimistes très exigeants qui disaient, bah, quand tu as le tricolore et le badge, oui, on dit un badge, le badge la poitrine, sur le maillot du champion de l'Italie, tu dois te battre pour le regagner, ce titre. Et puis, il y avait des plus pessimistes, entre guillemets, ou je ne sais pas
Dont
trop
tu
comment
faisais
dire,
partie.
dont je faisais partie, et qui disaient, bah, moi, déjà, s'il termine dans les quatre premiers, je trouvais ça très bien parce que, on ne va pas rappeler les raisons, mais gérer le fait de gagner un titre quand tu n'es pas habitué, c'est toujours un peu compliqué. Guillaume, où se situe pour toi la plus grande déception du Napoli cette saison? Où est-ce que tu veux pointer un petit peu les défaillances du Napoli?
Écoute, honnêtement, c'est une désillusion dans le sens où, comme tu le disais, il y avait deux écoles. L'école de on se bat pour gagner, pour regarder, ou pour regagner plutôt le titre, ou alors on vise les quatre premières places. Il y avait quand même un entre-deux voilà, entre ces deux objectifs-là, mais je ne m'attendais pas du tout à une saison pareille. Donc, ma déception, si tu veux, la pointer sur un homme, un joueur, pour moi, c'est vraiment voilà, c'est une saison collectivement où les erreurs ont été à tous les niveaux. Du président De Laurentiis, évidemment, qui a commencé la saison en nommant Rudy Garcia, peut-être qui n'était pas le bon choix, mais tout a mal commencé depuis la fin de saison dernière, finalement, Johan, quand Spalletti s'en va, la manière dont ça s'est effectué. Après, tu as eu un été quand même qui a été assez agité, avec mine de rien, tu as réussi à conserver toutes tes stars, sauf Kim. Qui est parti au Bayern. Donc, en soi, il n'y a pas eu non plus voilà, que Vara est resté, Osimhen est resté. Donc, c'est-à-dire que les principales têtes d'affiche étaient encore là. Mais disons que la saison est mort-née quasiment parce qu'avec Rudi Garcia, ça n'a pas marché. Donc, ça, c'est peut-être une première faute. Voilà, il a toujours la meilleure moyenne de points, hein, tu l'as dit. Mais c'est vrai que peut-être son erreur à lui, ça a été de vouloir trop rompre avec le passé et notamment avec Luciano Spalletti, qu'il n'a même pas voulu citer au moment où il est arrivé. Mais ça ne vient pas que de là, ce serait trop simple. De Laurentiis a évidemment beaucoup, beaucoup de fautes. Nommer Mazzarri, ça reste quand même aussi quelque chose d'assez surréaliste. Après, tu arrives sur Calzona. Voilà, y a vraiment beaucoup de choix à tous les niveaux qui ont été difficilement compréhensibles. Après, si vraiment tu veux que je fixe une grosse déception, ou du moins, on va dire, un responsable. Pour moi, le plus fautif là-dedans, ça reste le président. Pour moi, c'est à partir de là, de ses choix à lui, que la saison est devenue aussi catastrophique que ça. Peut-être qu'avec plus de stabilité, peut-être plus de décisions rationnelles, elle aurait été difficile, mais peut-être pas à ce point-là. Là, vraiment, j'ai l'impression, d'ailleurs, lui l'assume, hein, où il dit qu'il avait fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais disons que voilà, à tous les niveaux, il y a eu des fautes. Et on pourra aussi rappeler, Johan, que Giuntoli est parti, hein, qui était aussi l'un des comment dire,
Des
de
artisans.
ceux qui avaient, voilà, des artisans qui avaient construit la saison du Scudetto. Donc, que gagner un autre titre à Naples, notamment d'affilée, c'est difficile, on le savait tous. Mais de là à faire une saison pareille, honnêtement, voilà, c'était quand même difficilement imaginable et pronosticable, Johan.
Comme tu disais, je faisais partie un peu des pessimistes, entre guillemets, sur la saison du Napoli, ou en tout cas
Plutôt
des...
réaliste finalement,
Ouais,
plutôt réaliste
ou
quand tu
en tout cas
penses.
d'essayer de relativiser le fait d'avoir gagné le Scudetto la saison dernière, tout en ayant kiffé la saison du Napoli. C'était plutôt, tu vois, dans cette saison, il y a plein de trucs que j'imaginais. Que le jeu soit moins bien, bon, c'était pas trop difficile à imaginer parce que tu perdais Spalletti, parce que tu avais atteint un tel summum de qualité de jeu la saison dernière que tu disais, bah, c'est quasiment du jamais vu en Italie, hein, donc très compliqué à reproduire. Que y ait le fameux syndrome de la Panchapiena de c'est dur de gérer un titre une fois que tu as gagné et que tu n'es pas habitué à gagner, je m'y attendais, etc. Il y a plein de choses que j'avais imaginées, mais en fait, le plus décevant pour moi, c'est que j'avais beau l'imaginer, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là, et surtout, à aucun moment tu as senti qu'ils avaient, de manière générale, hein, je vais parler président, dirigeant, entraîneur, joueur, qu'ils avaient la capacité de faire changer les choses, de, tu sais, de retourner la table en disant, de renverser la table et en disant, allez,
Une
c'est bon.
révolte.
Ouais, voilà, exactement. Et Parfois, tu peux l'avoir en changeant d'entraîneur, tu peux l'avoir même des joueurs, tu vois, simplement le fameux truc de on s'est parlé dans le vestiaire, machin, on s'est dit
regarde
des
à
choses,
Rome.
Tu vois.
Si tu prends Rome, par exemple, tu vas le dire
Exactement.
aussi, il y a quand même une grosse différence.
Exactement. Et alors là, la différence, elle est plus pour moi insufflée par l'entraîneur que par les joueurs eux-mêmes. Mais
Totalement, totalement.
ils ont suivi en tout cas. Là, moi, je suis un peu déçu par des joueurs, tu vois, où bien sûr que tu as pu ton chouchou Spalletti et. Mais tu peux pas laisser filer une saison comme ils sont en train de le faire, comme tu vois, ne plus faire les efforts défensifs. En préalable, on donnait les chiffres, hein, Guillaume, 10e défense. Tu peux être mis en difficulté structurellement sur des trucs, etc. Mais là, tu sens que il y a même plus trop envie, en fait, depuis un certain temps, depuis pas mal de semaines, depuis l'élimination de la Ligue des Champions. C'est pas, non pas, j'y arrive pas. C'est, ouais, de toute façon, la saison, elle est foutue. Donc, pourquoi faire le sprint de plus? Pourquoi Et tu vois, même des joueurs chez qui j'attendais pas trop ça. Tu vois, un Di Lorenzo, parfois, j'ai
C'est
une attitude
exactement
qui
le nom auquel je
est.
pensais. Ouais.
Ouais,
Ouais.
tu vois, il y a une attitude que j'ai pas trop aimée, notamment le dernier match contre Frosinone, mais plusieurs fois avant, où tu te dis, si lui, qui a été toujours impeccable, même qui était impeccable en début de saison, là où d'autres avaient beaucoup de difficultés, si lui commence à baisser les bras, ah, ça veut dire quand même que c'est compliqué. Hein.
En fait, Johan, il y a une, tu sais, une espèce de démission hein, de certains joueurs et sénateurs. Là où je te rejoins, c'est vrai que. On sait voilà qu'avec avec Rudi Garcia c'est mal passé et que la saison on va dire est née difficilement et qu'il est parti sur des mauvaises bases. Mais une fois que Garcia était parti, si je me mets du point de vue du vestiaire, hein, on a bien compris que pour le vestiaire le
Il
problème
y a une
c'était
bonne
Rudi
partie du
Garcia.
vestiaire qui a fait en sorte qu'ils soient
Voilà,
plus là. Hein.
exactement. Donc une fois que Rudi Garcia est plus là, donc celui sur lequel tu mets quasiment toutes les fautes, une fois que tu es libéré de ça entre guillemets, normalement tu t'es censé passer ce step mental de se dire, bon, entre guillemets, il est parti, donc on démarre une nouvelle saison et on essaie d'insuffler quelque chose de nouveau. Et en fait, comme tu le disais justement, on n'a jamais eu l'impression qu'à un moment, il y a eu quelques coups d'éclat très rapides dans la saison du Napoli, mais moi, je n'ai pas eu, par exemple, un sursaut d'orgueil, tu sais, de se dire justement, on a le scudetto sur la poitrine, sur le maillot, et on va tenter de le défendre. Alors, on a vite compris qu'elle était perdue, parce que l'Inter déjà allait trop vite et le Napoli allait trop lentement, mais au moins un sursaut d'orgueil. Et tu vois, rappelle-toi la saison dernière, Johan, quand Milan va gagner à Naples 4-0 et puis les élimine en Ligue des Champions, là tu as quand même le sursaut d'orgueil du champion, parce que Milan avait connu une saison très difficile post-Scudetto 21-22, mais il y a eu ce sursaut d'orgueil-là en allant à Naples, qui allait être sacré champion, mais en disant. Bah, on va quand même aller chez eux, les futurs champions, pour dire bah, si on a gagné le titre la saison d'avant, ce n'était pas pour rien, c'est aussi parce qu'on l'a mérité. Donc il y a eu de l'orgueil. Et c'est vrai que là, dans le vestiaire du Napoli, j'ai vraiment le sentiment de démission et qu'à aucun moment, malgré le départ de Rudi Garcia, il y a eu une volonté de reprendre la saison en cours, de la reprendre en main et juste, tu vois, même pour les supporters, tu vois, au moins leur offrir. Quelques instants de bonheur ou de répit. Et chaque saison, il n'y en a quasiment pas eu. Voilà, tu as eu des moments sympas. Voilà, contre le Barça, bon, au retour, ça a été plus compliqué. Mais en fait, il n'y a pas eu de, voilà, de révolte. Et à aucun moment, il a eu, d'avoir du vaisseau, il y a eu la volonté de reprendre ça en main.
Et t'as pas eu de vrai... Enfin, quel grand bonheur t'as eu cette saison? Tu vois, sur un match ou sur un événement, enfin, tu peux même pas dire que t'as kiffé en Coupe d'Italie, tu t'es fait lamentablement sortir par Frosinone et à domicile. En Ligue des Champions, les deux matchs contre le Real, sans être ridicule, loin de là, on l'avait expliqué dans le podcast, mais t'as perdu les deux. Après, tu peux pas comparer non plus Union Berlin et Braga, tu vois, c'est quand même pas la même chose. Donc, quels sont tes vrais moments de bonheur dans la saison?
Non, je
J'en
vois.
vois pas, j'en vois
Non,
pas
non,
beaucoup
ça.
en fait, hein.
Disons que peut-être sur certains matchs, sur certains moments de match, tu vois, ils ont eu quand même le. Voilà, tu vois, par exemple, à Monza, bon, c'est Monza, mais le scénario était un peu fou.
Ouais.
Voilà, tu vois, il y a eu quelques moments, on va dire, où tu peux exulter, tu vois, où tu oublies un peu tous les problèmes et tu vis une journée un peu à part. À Monza, vu le scénario, vu les buts marqués, Osimhen, Politano, qui marque un but assez dingue, tu vois, tu as eu, on va dire, des moments de parenthèse dans cette saison compliquée. Mais c'est sûr que t'as même pas eu 3-4 matchs de suite où tu as pu croire à une série pour te dire, bon, on va remonter, même pas. Ça a vraiment été très épisodique dans le cœur de certains matchs. Donc, mais tu vois, on parle des joueurs, mais c'est vrai qu'à l'heure des charges aussi, Alors, même si pour moi, ils n'ont pas assez assumé leurs responsabilités cette saison, tu as quand même un environnement qui a été quand même assez toxique cette saison. Alors, je ne parle pas des supporters, parce que pour le coup, ils les ont beaucoup soutenus, notamment au début de la saison, ça a été plus compliqué, mais ils ont essayé du moins de faire des efforts pour les accompagner dans les moments compliqués, notamment voilà, dans la première partie de la saison. Mais quand tu as un président qui fait des conférences de presse assez lunaires, que tu as des changements de coach quand même qui sont difficiles à comprendre, quand tu vois, Johan, avec tout le respect qu'on a pour Mazzarri, quand tu le vois arriver dans le vestiaire, honnêtement, voilà, je peux comprendre aussi qu'une certaine partie du vestiaire se dise, bon, qu'est-ce que
ouais,
c'est.
Mais après, c'est toujours pareil, Guillaume. C'est ces mecs-là qui ont voulu que Rudy Garcia s'en aille de Naples.
Totalement.
Donc, bah, après, tu te débrouilles. Hein.
C'est pour ça que le côté, on n'assume pas ce qu'on a parfois voulu implicitement ou même explicitement en le disant clairement au président. Moi, quelque chose que je reproche aux joueurs, et c'est pour ça que je parlais beaucoup de Laurentiis à côté, parce que au-delà de l'aspect terrain et de l'aspect de démission, le sentiment qu'on avait de démission du vestiaire, tu avais un président à côté qui faisait les mauvais choix et qui, dans sa com, voilà, on va dire, t'inculquait pas quand même beaucoup de sérénité ou du moins t'apportait pas ce que tu avais besoin pour du moins avoir un peu d'accalmie dans ton quotidien à Naples. T'avais quand même un président. Moi, la conférence de presse qu'il fait au retour de la Super Coupe d'Italie, c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé assez lunaire.
En mode Lucky Luke.
Voilà, c'est exactement. C'est quelque chose que j'ai pas compris. Mais sur le côté des joueurs, on n'assume pas. Et voilà, tu as dit Di Lorenzo, pour moi, c'est vraiment l'exemple type du joueur exemplaire, irréprochable, soldat de Spalletti, et qui, cette saison, lui aussi, s'est fait prendre dans cette espèce de tempête, et lui aussi, finalement, a démissionné de son rôle de capitaine où il en a eu plein les bottes, il en a eu marre. Et à un moment, il n'a pas été capable, lui non plus, de prendre le vestiaire en disant « Écoutez, les gars, c'est pas fini. On va reprendre la saison et on va essayer d'aller quand même au bout. » Et même lui n'a pas été capable de ça. Donc,
et c'est pas faute d'avoir essayé, Guillaume, hein, parce que souviens-toi ce qu'il disait après les petits gestes de Osimhen à Bologne, de Politano au Genoa, quand ils étaient remplacés, qu'ils n'étaient pas contents, etc. De Guevara, je ne sais plus.
C'était à Genoa aussi. C'était à Genoa.
Les deux, c'était contre le Genoa. Moi, je me souviens de propos très forts qu'il avait eu au micro du diffuseur.
On en avait parlé d'ailleurs.
En disant, c'est pas possible d'avoir des gestes comme ça. On va l'évoquer entre nous, mais ça doit s'arrêter en fait. C'est tous ces petits gestes là. Et ben il a bien vu que Guevara cette saison, la mentalité est catastrophique parce qu'il a pas eu son contrat de temps espéré l'été dernier, et que en étant devenu un peu le roi de Naples la saison dernière, bah quand Garcia lui a demandé de défendre. Il voulait pas, qu'il a d'ailleurs fait avec Mazzarri sans broncher, entre parenthèses. Que Osimhen, bah, entre la Coupe d'Afrique, la traditionnelle blessure d'Osimhen, bah, t'as joué plein de matchs sans lui. Et que tu sais que je regardais l'autre jour un peu les stats d'Osimhen. Tu sais qu'une saison pleine, il l'a encore pas faite à Naples. Pleine, j'entends nombre de matchs joués. Hein.
Oui, bien sûr.
Je vais juste les reprendre là pour les avoir sous les yeux.
Bah, la saison dernière, elle avait été tronquée par...
Mais tous les ans, ouais. Première saison, 24 matchs, deuxième, 27 matchs, troisième, 32 matchs. Cette saison, on est à la 32e journée, 20
plus
matchs.
Plus la canne.
Donc, et si tu regardes même les titularisations, et ce n'est pas par choix, hein, parce que Osimhen, tu le mets tous les jours. Hein. Première saison, 16 matchs titulaires. Je parle juste en championnat. Hein. Deuxième saison, 23. L'année du Scudetto, que 30 sur 38. Et là, cette saison, que 18. Hein.
C'est peu pour un joueur.
C'est trop peu. Ouais. Pour un joueur qui, soi-disant, vaut 120, 140, 150, je ne sais pas.
Et qui, de toute façon, partira en fin de saison.
Ouais, exactement.
C'est acté. Donc...
Mais tu vois, chez les joueurs, j'ai trouvé aussi, chez Kvaratskhelia, chez Politano, chez eux, chez Osimhen, le manifestait clairement. Il y en a d'autres où tu as le sentiment que... tu vois, un Lobotka, par exemple, un Mario Rui, ils n'ont pas été clean non plus cette saison.
Mais tu sais, même l'affaire Zielinski, hein, tu signes à l'Inter en plein milieu. Après, voilà, c'est son droit. Mais on va dire que ça n'a pas aidé non plus sur le... Ça a vraiment été une saison où il n'y a strictement rien qui s'est bien passé pour Naples. Mais...
Ni le recrutement, Guillaume, je te lance sur le recrutement quand même.
Ouais.
Parce qu'il faut qu'on l'évoque. Hein. Donc, les recrues majeures, c'est Nathan et Lindström l'été dernier. Bon, t'as quand même tous les entraîneurs qui ont préféré joindre Jesus à Nathan, ce qui pour moi est un mystère. Lindström, pas adapté au 4-3-3, l'entraîneur de l'époque, Rudy Garcia, n'en voulait pas. Bah, bizarrement, Mazzarri n'en voulait pas. Calçona n'en veut toujours pas. Et puis les recrues du mercato hivernal aussi, hein, Guillaume. Mazzocchi, bah, il a fait un match, après c'était terminé. C'était contre qui le match où il passe totalement au travers là,
Rouge,
qui...
il prend rouge au bout
Ouais.
de.
Ah, je l'ai plus en tête.
Je crois que c'était à l'extérieur, il me semble. Mais alors, quel match je ne l'ai plus en tête non plus. Mais oui, il prend rouge au bout
Voilà.
de quelques minutes.
Traoré a pas apporté ce qu'il devait apporter. Puis alors, Dendoncker, lui, il a joué 10 minutes et basta cosy. Donc, compliqué aussi le mercato, Guillaume. Parce
Totalement.
que, tu vois, on dit souvent, un groupe qui a gagné, il faut aussi lui mettre un peu des nouveaux joueurs pour. Bah, là, y a rien qui va non plus. Hein. Mercato sortant avec Zielinski, mercato entrant n'a pas fonctionné non plus. Donc, ça va dans la théorie de cette saison. Le terrain, ça allait pas, les entraîneurs, ça allait pas, le président, ça va pas, le recrutement, ça va pas. Bon, il n'y a pas grand-chose qui va.
Ah bah non. Le carton rouge, j'ai vérifié, c'est contre le Torino. Il n'y a même pas
Ah,
qu'il est rentré.
exact,
Ouais, tu sais,
exact.
ils prennent 3-0 derrière.
Ouais.
Mais sur le recrutement, ce qui est assez symbolique aussi, je ne vais pas revenir sur tous les noms, mais qui ont été quasiment tous des échecs. Mais c'est le fait aussi, on peut le préciser, c'est que en vue de la saison prochaine, on sait déjà qu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'organigramme. Et ça prouve aussi que ce qui s'est passé cette année n'a pas fonctionné. On sait qu'au niveau de recrutement, voilà, il y a Mann, hein, qui va arriver de la Juve pour essayer de stabiliser tout ça et justement retrouver un peu les bonnes pioches qu'avait Giuntoli. Parce que bon, De Laurentiis, disons que c'est son fils qui avait trouvé Kvara, que voilà, dès qu'il peut, il essaie d'enlever quelques pioches de Giuntoli. Mais bon, le fait est quand même qu'avec Giuntoli, ils ont quand même gagné un titre et que les saisons allaient un peu mieux. Voilà, tu l'as dit vraiment, c'était une saison catastrophique à tous les niveaux, recrutement, vestiaire, dirigeant, président. Voilà, il n'y a rien qui s'est passé, mais quand même, dans un club, c'est toujours l'équipe qui va sur le terrain. Alors, la manière dont il va, c'est une chose, mais à un moment donné, si tu veux te révolter, tu le fais. Et c'est vrai que là-dessus, je te rejoins, à aucun moment de cette saison, je l'ai senti. Et tu sais, Johan, on n'a même pas vu à quelques moments le Napoli de la saison dernière. Tu sais, parfois, on aurait pu un peu revoir voilà, quelques bribes du Napoli de Spalletti et jamais on l'a revu. Alors que c'est la même équipe, hein. Il ne manque que Kim, hein. Foncièrement, c'est la même équipe, mais on n'a jamais revu à un moment donné le Napoli de Spalletti.
Au
C'est
tout
jamais arrivé.
début, tu sais, au tout début de Carlson, j'y ai cru un peu parce que les deux, trois premiers matchs, je revoyais des circuits de jeu, je voyais une possession de balle un peu plus importante et surtout plus utile. Tu vois, je recommençais à voir. Et puis en fait, ça a duré deux
De
matchs.
manière
Donc,
épisodique, voilà
ouais, exactement.
ce que je disais. Mais comme quoi, gagner deux saisons de suite à Naples, Johan, c'est pas évident, hein.
Non, non,
On
bah, bien
l'avait
sûr.
dit l'année dernière, mais
Mais ne serait-ce que faire deux bonnes saisons de suite, c'est ça en fait qui est
écoute,
compliqué.
t'avais été réaliste. C'est vrai que pour moi, quand tu gagnes le Scudetto, tu vas toujours le défendre après. Mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel supporter napolitain signerait pour être dans le top 4. Donc t'avais vu
Après,
plutôt juste.
mais c'est toujours la même chose, Guillaume. Essayons de nous mettre à la place des supporters du Napoli. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Tu aurais préféré que Naples soit deux fois deuxième, donc l'année dernière et cette saison, ou que Naples gagne un Scudetto et termine
Si je me mets à la place d'un
même
supporter
dixième, tu
napolitain,
vois. Ouais.
je pense qu'un supporter napolitain prendrait la deuxième option.
Mais
Je
bien
pense
sûr,
qu'il
tous les
prendrait
jours, tu
l'option
prends
du
un
titre,
Scudetto. Mais
évidemment.
bien
Bien
sûr.
évidemment. Bien évidemment.
Parce que ça, tu t'en rappelleras toute ta vie. Être deux fois
Total.
deuxième, bon.
Surtout comme ça. Surtout de l'avoir gagné de cette manière-là. Mais disons vraiment que, voilà, pour résumer, la saison avait mal démarré et elle se termine mal aussi. Et puis au milieu, c'était pas non plus très folklorique. Donc, on est quand même
Exactement.
sur quelque chose. On est sur de la continuité dans le dur, dans le très dur. Donc,
Guillaume, on va passer à
ouais.
la Lazio maintenant. Autre club qui va
Pas
pas
plus
très.
gai. Ouais.
Non, bah non, surtout encore plus récemment, quasiment. Septième de Serie A, donc devant le Napoli, mais avec le même nombre de points, 49 points, donc la même moyenne, hein, 1,53 points par match. Autant le Napoli, c'est la défense où ça ne va pas. Du côté de la Lazio, c'est l'attaque. Neuvième attaque de Serie A, deux entraîneurs. Là aussi, il y a eu un changement d'entraîneur, mais un changement d'entraîneur qui, en tout cas, qui est fait non pas en vue de terminer la saison, comme ça a été fait à Naples, les deux fois, hein, Mazzarri, c'était pour terminer la saison, et Calzona aussi. Là, ça a été marquer une rupture immédiate et commencer déjà à préparer la saison prochaine dès maintenant, avec Igor Tudor. Est-ce que tu en attendais beaucoup plus de la Lazio cette saison, déjà pour commencer un petit peu à évoquer la Lazio?
Beaucoup plus, non. plus non plus, je m'attendais à mieux. Voilà. Peut-être pas, voilà, je m'attendais pas à une saison mais comme la saison dernière, qui avait été quand même plutôt très bonne. Mais je dois avouer que je m'attendais pas non plus à un tel effondrement. Je m'attendais pas à ce que Sarri s'en aille. Enfin, du moins, avant le début de saison, évidemment. On pourrait dire, Johan aussi, rappelle-toi, dans le podcast spécial entraîneur, que j'avais mentionné Tudor pour la Lazio, et
Exactement.
c'est ce qui s'est passé.
Exactement.
Mais au niveau des objectifs, du moins, voilà, je pensais pas qu'à la Lazio, pour l'instant, au niveau de l'Europe, je sais pas si elle va arriver à se qualifier pour une coupe, mais je pensais pas que ça allait être aussi difficile. En tout cas, pour ma part, pour la tienne.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
J'ai un peu de mal à évaluer la saison de la Lazio parce que pour moi, en Ligue des Champions, ils ont presque été au-delà de mes attentes parce qu'ils sont sortis de la phase de poule et ils ont battu sur un des deux matchs le Bayern. Donc là, je trouve ça bien en termes d'objectifs, hein, pour clairement. En championnat, sachant que la Lazio allait retrouver la Ligue des Champions avec tout ce que ça prend en énergie, avec un effectif qui est quand même assez court, même s'ils ont fait quelques recrutements intelligents. Mais quand tu as un effectif qui est court, mais avec un 11 très, très, très fort, ok. Mais là, tu as un effectif qui est court sans être trop court, mais avec un effectif pas si fort que ça. Donc, je les voyais, pour moi, je ne les voyais pas dans la lutte pour la Ligue des Champions. Après, de là à être aussi en galère, peut-être pas.
Oui.
Et surtout, un truc que je n'imaginais pas, c'est à quel point il y allait avoir des difficultés au niveau vestiaire. Et la dernière en date étant évidemment Luis Alberto. Mais peut-être que je vais un peu trop vite, mais cette saison avec Sarri, c'était compliqué parce que l'année dernière et l'année d'avant, rappelons-le, Guillaume, on avait noté hein, dans les stats avancées la surperformance de la Lazio devant le but, avec notamment il y a 2 ans l'équipe d'Europe qui surperforme le plus devant le but, qui sublimait un peu des prestations qui étaient bonnes mais sans plus. Et là, on a eu le sentiment que bah, il n'y avait plus les prestations et il n'y avait plus la surperformance, je vais y arriver. Et donc, plus compliqué.
Mais tout s'est normalisé.
Ouais, exactement.
Tout simple, ouais.
T'as raison, ça s'est complètement normalisé. Et donc, c'est une équipe qui est devenue aussi, pour le coup, normale. Et c'est assez décevant sans doute pour certains supporters de la Lazio qui imaginaient pouvoir enclencher, continuer dans un cycle tu vois, de progression, de renforcement d'effectifs, etc. Et finalement, la première partie de saison, voire un peu plus, avec Sarri, a amené à une révolution qui a commencé là avec l'arrivée d'Igor Tudor, mais qui va se poursuivre cet été avec... Là, il y a quand même plein de choses à raconter, Guillaume. Parce que l'arrivée de Tudor, c'est un style de jeu. C'est un style de jeu qui ne correspond pas à tout le monde. C'est un management qui ne correspond pas à tout le monde. Et donc, il y a eu déjà en l'espace d'un mois, à peine un mois, je crois d'ailleurs, des soucis avec Guendouzi, des soucis avec Luis Alberto. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et peut-être que la transition, elle est même en train de s'accélérer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire une croix définitive sur la fin de saison et essayer de mettre en place des choses pour la saison prochaine, alors que peut-être que l'idée, c'était déjà de bien terminer la saison avant de penser à la saison prochaine.
Et tu vois là, que la saison est décevante, comme tu disais, c'est, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais de là à que tout parte à volo comme ça, aussi brusquement, hein, parce que toi, tu as parlé de Luis Alberto. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les déclats, c'était juste après le match du week-end dernier, après une belle victoire de la Lazio en plus. Hein. Mais voilà, avec beaucoup de contre Salerno, avec beaucoup de sifflets. Voilà, après le derby perdu contre la Roma, et on sait l'importance du derby à Rome, mais voilà, c'est un match très dur, on va dire, au niveau de l'ambiance. Mais juste après le match, c'est Alberto voilà qui dit bah mon cycle est fini, je m'en vais, je veux plus un euro de ce club-là, je veux une rupture de contrat. Sauf que son contrat quand même il est encore assez long.
Ah bah, donc, il vient de le prolonger donc.
Voilà donc c'est compliqué d'imaginer à la Lazio le laisser partir gratuitement, mais bon, importe, on verra bien la suite. Felipe Anderson-Newman qui annonce aussi son départ. Alors ça, on le savait en fin de contrat, mais qui repart du coup à Palmeiras alors qu'il semblait quand même se diriger à la Juve. Johan, surtout le cas aussi qu'on va devoir débattre, c'est Immobile.
Ciro
Immobile qui est vraiment en grande difficulté. Hein, tout à l'heure, on parlait du Bayern. Moi, j'ai encore son occasion dans les yeux là, face au Bayern au retour. Ouais, ça, c'est quelque chose. Je t'avoue que j'en ai fait des cauchemars pour les étudiants de la radio. Parce qu'elle était...
Tu sais, dans les sports américains, il y a un truc, on appelle ça les what if. Une sorte de tournant. Tu vois, nous, oui. On va plutôt le traduire par tournant. Tu vois, le truc de what if. Alors, soit ça peut être sur un match, soit ça peut être sur une carrière d'un joueur, d'un entraîneur, le destin d'un club, etc. Bah, tu sais, le what if de Immobile marque à Munich, j'ai bien envie de le voir s'il marque. Hein.
Absolument. Et c'est sur le 0-0, si je ne m'abuse.
Si je me souviens bien, c'est sur le 0-0.
Ouais, ouais, pas sur le 1-0, sur le 0-0.
Non, c'est 0-0 de mémoire.
Enfin, voilà. Et il marque juste derrière le Bayern. Enfin, voilà. Et c'est assez symptomatique. Et tu parlais du management d'Igor Tudor. Et tu vois, Tudor est arrivé. On aurait pensé, bon, il va essayer dans ce, voilà, à court terme, du moins jusqu'à la fin de la saison, de limiter les dégâts. Peut-être, voilà, essayer d'apaiser la chose. Et finalement, on voit bien que si Castellanos joue beaucoup, que Immobile n'est pas forcément titulaire. Et Tudor le dit, il n'y a pas de passe droit. Et il voit bien qu'Immobile est en difficulté. Donc, tu parlais de révolution, mais voilà, c'est une révolution entre les partants, les arrivants, et même au niveau du management, du jeu. Voilà, on va être sur un été crucial pour la Lazio parce que va pas falloir se rater ni dans les départs ni dans les arrivées. Et Tudor, on le sait, hein, c'est quelqu'un, voilà, de très caractériel, de très, voilà, qui impose aussi ses besoins à sa direction et qui n'hésite pas à partir quand il n'est pas content. Donc voilà, on est sur un profil assez différent de celui de Sarri, mais voilà, il y a, moi c'est plus ça qui me surprend, c'est pas tant la saison de la Lazio, c'est plus comment tout part à volo en cette fin de saison. Et voilà, la déclaration de Luis Alberto après une victoire, tu sens vraiment que c'est rien du cœur, quoi. Il aurait pu faire du très basique, de la langue de bois, et pas du tout. Et peu de jours après, c'est Felipe Anderson qui annonce son départ. Immobile, voilà, on va voir ce qui se passe. Et voilà, on sent quand même qu'il y a une espèce de virage qui va être pris par la Lazio l'été prochain. Surtout que le titre, Johan, aurait pu très bien prendre un intérimaire, hein, jusqu'à la fin de la saison et réfléchir calmement au projet à mener. À quel entraîneur choisir. Et là, s'il a pris tout d'or, il le sait, c'est pour, dans l'idéal, 2-3 ans, pour installer un nouveau projet de jeu, qui peut être intéressant, mais il va falloir bien gérer ce virage de fin de cycle pour certains, et voilà, par qui les remplacer surtout.
Notons, les auditeurs ont d'ailleurs noté que tu nous as gratifié d'une traditionnelle, désormais, petite expression désuette, aller à volo.
Et ça, c'est vrai,
c'est quand même chouette.
C'est vrai qu'elle est dans ma liste et je m'étais promis de la dire, tu vois, j'ai reçu mon pari. comprends l'idée, tu vois.
Mais bien sûr, voilà, non, mais moi j'adore, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu vois, tu parlais de comment gérer le mercato qui arrive et tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs et de cadres de cette équipe depuis plusieurs saisons qui vont peut-être faire leur valise du côté de Rome, hein, parce qu'on parle évidemment des plus emblématiques comme Immobile et Luis Alberto. Mais tu vois, un Romagnoli, par exemple, ça ne correspond pas vraiment à l'idée du défenseur très agressif, très hargneux, très acharné de travail qu'aime Igor Tudor. Un joueur comme Cataldi, je ne suis pas persuadé que ça corresponde énormément à ce qu'il veut installer à ce poste-là. Tu l'as dit, Felipe Anderson sera déjà parti. Il y a évidemment aussi la situation de Matteo Guendouzi.
Oui.
Alors, avec c'est quoi, c'est le message qui avait sorti ça ou je crois que c'est le message
sur leur,
la Repubblica, je sais plus,
sur la petite dispute entraînement.
Ouais. Donc
compliqué, hein, parce que Guendouzi, ouais. Pour ceux qui n'hésitent pas forcément à la Lazio, Johan, c'est quasiment le meilleur joueur de la saison, hein.
Meilleur joueur de champ, ouais.
Honnêtement, énorme saison de Guendouzi dans une saison qui est quand même pas facile pour la Lazio. Il a pris un rôle de leader qu'il n'avait pas forcément dès son arrivée. Et franchement, non, chapeau pour sa saison. Mais c'est vrai que quand il a vu Igor Tudor arriver, on rappelle, hein, à l'OM, ça a été assez compliqué. Hein,
et le même jour, il est appelé en équipe de France.
Oui, oui, c'est vrai.
Donc, niveau ascenseur émotionnel, t'es pas mal.
C'est vrai. Mais voilà, Guendouzi, on le sait, à l'OM, il avait dit tout le bien qu'il pensait un jour de retour d'un voyage à Lyon, à l'aéroport de Marianne, à ses dirigeants, sur le bien qu'il pensait d'Igor Tudor. le voir arriver alors que sa saison est quand même plutôt bonne à la Lazio. Attention à ce que ça ne remette pas en cause son avenir, hein, Johan, hein, parce que sauf bah, s'ils arrivent à apaiser leurs différends, mais
là il peut y avoir 5 titulaires qui s'en vont l'été prochain et qui quittent Rome, hein, donc c'est clairement pas anodin. Je voulais te demander, tu penses quoi de, je t'en avais un peu parlé en début de saison, de Castellanos, parce que je le suivais quand il était aux États-Unis, qui moi est un attaquant que j'aime beaucoup, qui sera jamais le joueur comme Immobilier qui te met, enfin jamais, non, ne pas dire jamais, mais qui sera peut-être pas le joueur qui te met 25 ou 30 buts comme Immobilier, mais qui t'apporte beaucoup dans le jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce que t'as vu de Castellanos cette saison?
Castellanos, dont le flocage est Tati, rappelons-le.
Exactement.
Le flocage est Tati. Écoute, moi, ce que j'aime beaucoup de Castellanos, alors, oui, je vois pas le bomber de 25-30 buts par saison, évidemment. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son caractère. Alors, voilà, je comprends qu'il peut être un peu clivant, parce que c'est un caractère assez fort, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce caractère un peu, tu sais, trempé, même quand il entrait parfois 10-15 minutes, ça reste, et ça, tu vois, ça pourrait être un profil qui colle un peu à ce qu'aime Igor Tudor. Le profil travailleur, le profil, battant, le profil guerrier, le profil
voilà. Il a vraiment, alors c'est un gros cliché, hein, mais la mentalité des joueurs argentins, hein.
Voilà, exactement. Et non, moi j'aime beaucoup ce profil d'attaquant là, et je trouve quand même que pour sa première saison à Rome, écoute, elle est quand même plutôt convenable. Après, il faudra voir s'il a les épaules aussi pour être un titulaire sur toute une saison du club Lazio, et surtout sur ce qui va être mis en place par Tudor. Mais en tout cas, dans le profil, moi, je ne l'ai pas suivi autant que toi avant. Et pour moi, ça reste une bonne découverte.
C'est 4 buts et 3 passes décisives en 12 titularisations et 29 apparitions.
Et même les supporters, hein, les tifosi Lazio, je pense qu'ils l'apprécient plutôt. Hein.
Ouais.
De toute façon, à Rome, voilà, comme Guendouzi d'ailleurs, tu as aussi besoin parfois d'un caractère un peu fort pour t'apposer dans un environnement qui est assez compliqué, notamment quand ça va moins bien et quand tu perds le derby, quand voilà, cette fin de saison est assez compliquée du côté de Lazio, et tu as besoin de ce caractère-là. Et c'est vrai que Castellanos, justement là, et non, moi, c'est un joueur qui m'a plu. Je ne sais pas si tu as son âge, Johan,
je crois qu'il a 25 ans. Mais
ouais.
Il a 25 ans, c'est ça.
Parce que, bon, après, tout dépendra aussi d'Immobilier. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va accepter d'être un second rôle? On va voir ce qui se passe l'été prochain avec Chiro. Mais pour l'instant, ça reste flou. Hein. Ça reste flou. Hein.
C'est clairement flou, ouais.
Toi, Johan, tu dirais quoi? Pense que...
Moi, je pense que
est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait pas?
En fait, je pense que Immobilier mérite autre chose que de faire une saison galère sous Tudor pour tout ce qu'il a apporté à la Lazio. Et donc, il vaut mieux arrêter avant ça. Rien que pour laisser des bons souvenirs dans la tête de tout le monde, du côté de la Lazio, des supporters. Et donc, pour moi, ça doit s'arrêter là. Et Chiro ira où il a envie d'aller. S'il veut cachetonner, il cachetonnera. Après tout, voilà, Non, mais après tout, tu vois, il a acquis un statut qui lui permet de choisir sans que personne n'ait quelque chose à dire finalement.
Une légitimité.
Voilà. Ouais. Donc, t'as fait ta carrière, c'est bon, t'as tout donné à la Lazio, t'es devenu sans être, parce que c'est pas, ce sera pas Maldini, ce sera pas Zanetti, etc. Mais t'es une bandiera de la Lazio finalement. Tu l'es devenu parce que pour tout ce que t'as apporté à ce club et pour le nombre de saisons, parce que c'est quand même une bonne paire de saisons qu'il est là. Alors évidemment, il n'a pas fait que la Lazio, il n'a pas été formé là-bas, etc., etc. Mais tu peux devenir aussi une bandiera sans être né sur place et sans faire toute ta carrière dans le club. Mais aujourd'hui, disons que ça, moi, d'un œil extérieur, ça me ferait un peu mal au cœur, tu vois, de voir un Immobilier qui fait 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là la saison prochaine et qui va être là à prendre son mal en patience sur le banc. Puis parfois... quand il en aura vraiment marre, bah, il ira gueuler dans la presse. Non, je préfère que ça s'arrête là, que tu vois, ça s'arrête sur une dernière journée où tout le monde lui fait la fête pour tout ce qu'il a apporté au club, machin, etc. Et que il aille là où il a envie d'aller. Parce que
honnêtement, je suis pas certain qu'il accepte de toute façon un statut de rendre 10-15 minutes. Hein. Je pense qu'on histoire
oui.
pour comment elle s'est passée, pour... Voilà, c'était une très très belle histoire et j'ai du mal à l'imaginer, se dire bon, Ok, je vais être remplaçant, je peux encore un peu aider. Je pense que, voilà, vu que cette saison, hein, qui est en demi-teinte, elle n'a pas été catastrophique, mais elle n'a pas été bonne non plus. Je pense que lui aussi a bien compris que c'était le moment de se séparer. Après, voilà, je suis assez curieux de voir son choix. Est-ce
tu vois les deux derniers matchs de la saison, Guillaume, à domicile? Enfin, oui, les deux derniers, c'est pas les deux derniers matchs de la saison, mais les deux derniers matchs à domicile de la saison. C'est avant dernière journée, tu reçois Empoli. Dernière journée, tu reçois Sassuolo. Là, il y a moyen de faire une belle fête pour Immobilier, je pense.
Bien sûr. Ouais. Totalement. Sauf si les deux clubs jouent encore leur maintien.
Oui, mais malgré tout, c'est quand même des défenses assez, assez sympathiques pour les attaquants. Donc, je pense qu'il y a moyen de... Et d'ailleurs, Guillaume, je ne t'ai pas demandé pour Naples, mais on peut faire le petit jeu pour boucler sur les deux clubs. Tu les vois revenir sur les 5-6e?
Alors, il faudrait que je vois le calendrier.
Alors, je peux te le donner, je l'ai sous les yeux.
Et allez.
La Lazio aura... Je te l'ai fait dans l'ordre. Hein. La Lazio aura Genoa à l'extérieur, Juve et Las Verona à domicile, Monza à l'extérieur, Empoli à domicile, Inter à l'extérieur, Sassuolo à domicile.
Pas évident, hein.
Pas évident. Et je te donne tout de suite le Napoli. Comme ça, tu pourras me dire si tu envoies au moins un des deux revenir. Le Napoli va à Empoli, reçoit la Roma, va à Udine, reçoit Bologne, va à la Fiorentina, reçoit Lecce.
Ouais, c'est de calendrier pas simple, hein. Surtout que la fin de saison avec le combat qui est assez acharné pour le
En fait,
le
les deux, ils ont quasiment uniquement soit des gros clubs, soit des clubs du très bas de classement. La Lazio, c'est Juve, Inter dans les gros clubs et dans les bas de classement qui peuvent encore se battre pour quelque chose. T'as Hellas Vérone, Empoli, Sassuolo. Et entre les deux, t'as le Genoa, voilà, Lazio. Et côté Napoli, t'as la Roma, Bologne, Fiorentina qui vont jouer quelque chose et Empoli, Udinese et Lecce qui jouent pour ne pas descendre.
Et surtout, Johan, il faut aussi regarder devant. Et tu vois, est-ce que tu vois vraiment Bologne, Rome, Atalanta s'écrouler? La Roma, quand même, est revenue avec De Rossi. Elle est quand même sur une bonne dynamique.
L'Atalanta, ça peut dépendre parce que s'ils perdent leur match en retard contre la Fiorentina, ils n'ont que 2 points d'avance sur ces deux clubs-là.
Moi, allez, je vais te dire aucun des deux.
Ok.
Je pense qu'aucun des deux.
Je suis assez d'accord.
Et toi?
Ouais, je suis d'accord.
Non, je pense que le classement comme il est aujourd'hui résume quand même plutôt bien la saison.
L'Atalanta jouera Monza, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Roma, Lecce, Torino.
Ouais. Bah, en fait, les calendriers restent compliqués parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que tu vois, il est pas certain non plus. Et imagine, l'Atalanta va au bout en Ligue Europa, ce qui est pas impossible, hein, parce que bon, bah, croiser les doigts, on enregistre avant le retour contre Liverpool, mais bon. Le 3-0 de l'aller, on a quand même de bon espoir d'aller en demi et pourquoi pas d'aller en finale pour la DA.
Tu vas peut-être lâcher des points, sachant qu'il peut y avoir la finale de Coupe d'Italie aussi.
Ouais, ça peut être aussi un facteur. Et on sait que la Lazio et le Naples, ils n'ont plus que ça à jouer en soi. Donc, ça peut être aussi un facteur à prendre en compte. Après,
et
dans
si on a un des deux qui doit remonter au classement, tu pencherais pour lequel?
Je pencherais plus pour le Napoli, dans l'idée.
Ouais, je suis d'accord parce que moi, ce qui m'embête avec la Lazio, c'est tout ce qu'il y a eu là en une semaine entre Guendouzi et Luis Alberto.
Mais oui, bien sûr.
Ça fait beaucoup quand même. Hein.
C'est et surtout dans un temps assez court. Et surtout, t'as l'impression vraiment que c'était la fin de la saison en mode bon bah voilà, c'est la fin. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Enfin voilà, c'est ça qui est assez étonnant. Donc au vu de, alors c'est pas plus folklorique à Naples, on l'a longuement expliqué, mais voilà, dans l'idée en tout cas, je. Pina, surtout, Johan, aussi les armes, peut-être pour, tu vois, si tu as quelques joueurs qui arrivent à monter légèrement le niveau en fin de saison, voilà. Ça peut être aussi important pour le rush final.
Et
mais Pina,
tu as des individualités que la Lazio n'a pas.
Exactement. Bah, voilà.
Même si tu joues mal, même si, tu vois, à un moment donné, bah, on l'a vu à Monza, hein, tu as Politano qui a une volée de 40 mètres. Sympa,
la tête d'Osimhen aussi pour égaliser. Enfin, voilà, c'est voilà, ça. C'est... Dans l'idée, voilà, plus Naples.
Eh bien, écoute, Guillaume, c'est parfait. Voilà qui boucle un peu notre épisode spécial Lazio-Napoli de des déceptions de la saison. Alors que, alors attends, le football va tellement vite qu'on a parfois tendance à oublier même ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, mais c'est comme le premier et le deuxième de la saison dernière. donc, on a les deux premiers de la saison dernière qui sont un peu en galère quand même cette saison.
C'est vrai.
Voilà, que dire bah de qu'on est évidemment sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à partager cet épisode-là encore une fois, d'aller faire un tour sur calciopp.shop pour les posters, vous en avez l'habitude désormais. Et puis nous, Guillaume, on se retrouve rapidement. On a quelques idées de podcasts là. Il y a les Coupes d'Europe qui arrivent, le sprint final en Serie A. Il y aura pas mal de choses à débriefer. Donc on se donne rendez-vous assez rapidement sur
Très
Calciopépé. On
bien.
remercie évidemment nos auditeurs et auditrices encore une fois. Et on
Les
se
5 étoiles, Johan, hein, faut pas
Ah,
oublier.
les
Hein.
5
5
étoiles. Ah,
étoiles, bien
voilà,
sûr.
5
5
étoiles sur
étoiles.
Spotify et Apple Podcast.
5 étoiles en attendant la 5e étoile de la nationale et un jour, peut-être proche, peut-être
Et il y
loin.
a ça aussi qui va arriver, dont on va parler dans le podcast Calciopépé. Hein.
Oui, exactement. Mais bon, 5 étoiles, c'est rapide, c'est gratuit. Un petit commentaire, même pas. Allez, même pas obligatoire, un commentaire. Bon, l'idée, ça nous fait toujours plaisir. Ça prend 10 secondes et ça nous aide aussi à monter sur les plateformes. Et ça nous donne aussi, juste tu vois, du baume au cœur,
Ouais, c'est
voilà,
vrai.
d'avoir des bons retours, d'avoir des jolis commentaires. On a reçu vos messages aussi pour cette absence de courte durée. Mais bon, voilà, vous le savez, on a aussi
Bien
nos
sûr.
vies professionnelles et personnelles à gérer. Donc, ce n'est pas toujours évident. Surtout que, Johan, Calciopépé, ça reste beaucoup de plaisir.
Ouais.
Et on en prend toujours autant à le faire. Donc, merci à vous de votre écoute. Mais voilà, 5 étoiles, c'est gratuit, ça nous fait plaisir.
Exactement, Guillaume. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.